Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, première cassette, deuxième face, page 17. C'était un soir de mai. Les marronniers venaient de fleurir devant la mairie. On guettait les asperges dans les jardins. Le grand nettoyage de printemps était terminé à l'hôtel du Grand Cerf et Gaspard faisait une de ses premières promenades de l'année. Il était venu dans le sentier le long des jardins et s'était assis derrière un rideau d'herbe naissante, non loin de la maison du maire. Il lui arrivait rarement de rester dans ce voisinage distingué. À peine venait-il de s'arrêter pour une brève méditation qu'il entendit la musique d'un poste de radio. Presque aussitôt, la musique cessa, le programme étant terminé, puis une voix dit « Veuillez écouter maintenant un communiqué ». Le communiqué s'interrompit brusquement. On venait de tourner le bouton du poste. Il y eut une brève discussion dans la maison, probablement entre le maire et sa femme, et de nouveau, la voix se fit entendre.
Une quinzaine d'années, qui d'Anvers a traversé à pied toute la Belgique, réussissant à échapper à la police. L'enfant portait un pantalon de velours gris, une chemisette de laine bleue, cheveux blonds abondants descendant sur la nuque. Il y a lieu de supposer que cet enfant s'est perdu dans la forêt entre Revin et Reveillenne et Lefour, L-A-I-F-O-U-R, où on l'a aperçu pour la dernière fois.
La radio se tut. « Il cherche toujours, » dit le maire. « Lefour, ça n'est pas à 20 kilomètres d'ici, » dit sa femme. Gaspard ne fut nullement frappé du fait que cette affaire d'enfant fuyard se poursuivait dans la région de Lominval. Il ne connaissait pas mieux Lefour qu'Anvers ou Revin. Un beau visage, soudain, lui apparaissait, des yeux bleus, une chevelure étincelante, des vêtements pleins de grâce. Cela ne l'étonnait guère, mais il devinait dans ses yeux inconnus d'enfant je ne sais quelle flamme aiguë. Un enfant qui réussit à traverser toute la Belgique pour venir dans la grande forêt doit être animé d'une résolution étrange. Les raisons qui le poussaient, Gaspard ne s'en faisait aucune idée. Il s'imaginait simplement ses yeux bleus, où il y avait comme une fissure éblouissante. Gaspard haussa les épaules. Il se leva et se disposa à rentrer à l'hôtel pour le repas du soir. Il n'avait jamais la charge d'aider aux préparatifs du repas. On ne mettait pas assez de confiance en ses talents pour lui donner le soin de tourner une sauce ou de mettre le couvert. Il se faisait cette réflexion tout en longeant les murs de l'église pour revenir à la maison comme d'habitude, lorsque, de l'abri d'un contrefort, s'élança soudain vers lui un enfant d'une quinzaine d'années qui ressemblait en tout point au portrait du communiqué. Pantalon gris, chemisette de laine. Dans le visage de l'enfant, amaigri et déchiré par les ronces et qu'encadraient des cheveux en désordre, poussiéreux et d'un éclat magnifique, brillaient des yeux où filtrait une lumière d'une dureté angélique. Gaspard demeura stupéfait. L'enfant l'examinait avec attention et sembla même, en ces brefs instants, s'intéresser à Gaspard. Il allait parler lorsqu'une autre voix se fit entendre à 10 pas de là. C'était la voix du garde champêtre.
« Voilà bien un quart d'heure que je te vois tourner autour de l'église. Tu n'échapperas pas cette fois !»
Les gardes champêtres et mains agents de la fonction publique éprouvent la nécessité de faire un discours pour expliquer ce qu'ils vont faire. Et ainsi, il n'est pas impossible de leur échapper. Dès les premiers mots, l'enfant blond s'était élancé, bousculant Gaspard, mais aussitôt il fut arrêté par le charron qui avait contourné l'église et qui venait en aide aux gardes champêtres. Le charron saisit l'enfant par le bras. L'enfant se débattit d'abord avec grande fureur, mais il se résigna à son sort lorsque le garde fut arrivé pour prêter main forte au charron. Gaspard assista à la scène sans faire un geste ni dire un mot. Il n'était pas question d'entamer une lutte ou une discussion avec le garde et le charron. Déjà, l'enfant s'éloignait vers l'extrémité de la place entre les deux hommes. Sans doute, ils allaient chez le maire qui déciderait du sort de ce jeune vagabond. Des femmes sortaient des maisons et il se formait une foule alentour. Gaspard vit l'enfant qui tournait la tête vers lui et le regardait. Jamais Gaspard Fontarel ne devait oublier ce regard.
quand tout le monde eut disparu à l'angle de la rue et que la place fut de nouveau déserte, il revint à l'hôtel du Grand Cerf. La servante s'occupait à mettre le couvert dans la salle du restaurant pour les rares voyageurs. Il gagna la petite pièce située entre la cuisine et la salle et où Gabriel Berlicot servait déjà la soupe pour les gens de la maison. Personne ne savait encore qu'un enfant étranger avait été arrêté auprès de l'église tout à l'heure. Pendant le repas, Gabriel Berlicot, assise sur une fesse selon son habitude, donnait les ordres depuis la cuisine. Elle se levait de temps à autre comme poussée par un ressort. On n'avait pas achevé l'omelette que M. Bérec, B-E-2-R-E accent grave Q-U-E, le maire, entrait dans la salle du restaurant et hélait Gabriel Berlicot qui s'élança de façon instantanée. Chapitre 2 : L'enfant perdu. Gabriel Berlicot avait refermé derrière elle la porte vitrée qui sépare la salle à manger particulière de celle du restaurant. Ni la servante, ni le commis, ni Gaspard n'entendirent un mot de l'entretien. Dans le verre dépoli, ils voyaient à contre-jour les silhouettes du maire et de la tante. Gabriel Berlicot faisait de grands gestes, étendait les bras, les levait au ciel et finalement s'appliquait les poings sur les hanches, ce qui était le signe d'une décision irrévocable. Deux minutes plus tard, tandis que le maire s'éloignait, la tante rouvrait la porte et avant même de s'asseoir, elle disait « Fernande, allez préparer le numéro 25. »«
Le numéro 25 ? Mais mademoiselle n'y songe pas, » répondit Fernande. « Voilà 2 ans que personne n'y a mis les pieds. »«
Je vous apprendrai à discuter mes ordres, » dit Gabriel Berlicot. « Laissez votre omelette et faites ce qu'on vous demande. »
« Mais qui servira dans la salle ?» reprit Fernande.
« Gaspard servira !»
trancha Gabriel Berlicot.
Cette parole eut un effet prodigieux. La servante se leva avec une hâte soudaine. Elle disparut dans l'escalier en s'essuyant la bouche du revers de sa manche. Le commis s'étrangla comme il voulait dire son mot. Quand Gabriel Berlicot se rassit, elle ne jeta qu'un regard vers le cuisinier qui était venu au seuil de la cuisine, et le cuisinier regagna aussitôt son repère. Gaspard plongea le nez dans son assiette.
« Le numéro 25 !» ne put s'empêcher de dire le commis.
« Tu as entendu, Gaspard ?» reprit Gabriel. « Dans 5 minutes, il faut que tu sois à ton poste. Tu prendras la veste blanche qui est dans la penderie du couloir. »
Jamais Gaspard n'avait servi dans la salle. Pourtant, il aurait été inexact de supposer que Gabriel Berlicot avait reçu comme un coup sur la tête. Le numéro 25 désignait une mansarde qui ne possédait qu'une ouverture en tabatière et qui était située dans le grenier, au-dessus de l'appartement de Gabriel Berlicot. Gaspard habitait à l'autre extrémité du grenier, une mansarde un peu plus spacieuse. Le numéro 25 ne servait qu'en certaines veilles de chasse au bois, où les invités trop nombreux ne pouvaient pas être tous accueillis au village. Même en été, Gabriel Berlicot refusait le 25 s'il se présentait un touriste inattendu. Elle préférait proposer la salle de bain. Gaspard devinait que ce serait là le logement tout au moins provisoire de l'enfant perdu. La démarche du maire et la mise en état de la mansarde ne pouvaient qu'annoncer la venue d'un hôte exceptionnel. Enfermé là-haut, tandis que Gabriel Berlicot montrait la garde à l'étage inférieur, l'enfant n'aurait aucune chance de s'enfuir. Gaspard avala son omelette, alla enfiler la veste blanche et se disposa à servir dans la salle dès que le premier client paraîtrait. Il espérait guetter le jeune coupable par les fenêtres qui donnaient sur le terre-plein. Entre les fusains plantés dans les baquets, il apercevait la rue descendant vers l'église. Un peu plus tard, il vit approcher 2 voyageurs de commerce qui entrèrent et s'attablèrent. Gaspard se précipita vers la cuisine pour enlever le potage. Certainement, la tante l'avait préposé à cette fonction afin d'éviter qu'il n'aperçût l'enfant.
elle restait fidèle à la règle qui voulait que Gaspard fût écarté lorsqu'une affaire de quelque importance se présentait, et c'était un pis-aller que de le cantonner au restaurant. Une fois de plus, il serait éloigné de tout événement et il ne saurait jamais d'où cet enfant venait ni qui il était. Pendant le repas qu'il dut servir à une demi-douzaine de personnes, il put constater que la rue demeurait déserte. Gabrielle Berlicot apparut au moment de la salade. Elle avait un air satisfait, comme si elle venait d'aplanir d'insurmontables difficultés. Sans aucun doute, on avait suivi les ruelles pour conduire l'enfant au grand cerf afin d'éviter toute curiosité, et l'on était entré par la cour. Au moment du dessert, Gaspard prêta l'oreille à la conversation des deux premiers hommes qui étaient entrés pour dîner. L'un représentait une maison de machines agricoles, l'autre proposait des engrais nouveaux.
« Cela arrive tous les jours, » disait l'un. « Il paraît que le père possède une grande fortune, » répondit le second. « Les enfants gâtés sont pires que les autres. Le maire m'a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à le faire parler et que c'était un sauvage. Habitué à faire tous ses caprices, certainement. Il prétend qu'il cherche sa famille et son pays. »
« Quel pays ?»«
Ça, c'est bien là la question. »
Gaspard écoutait comme s'il se fût agi de sa propre vie. Les hommes se turent. Gaspard se tenait immobile à côté du palmier qui s'élève du grand cache-pot de cuivre. Il répétait à part lui. Quel pays ? Les paroles qu'il avait entendues étaient tout à fait contradictoires. Certainement, elles ne pouvaient concerner que cet enfant qu'il avait vu, hagard et magnifique. Comment expliquer qu'il avait quitté son père pour rejoindre sa famille? Peut-être que sa mère, pour quelque raison, avait dû s'éloigner de la maison. Mais qu'il prétendît en outre chercher son pays, cela n'avait pas de sens. Sur un signe du premier homme, Gaspard alla quérir le café. L'autre demanda un tilleul.
« C'est ben ce que je ne m'explique pas, » disait justement le marchand d'engrais, buveur de tilleul. « Comment peut-il chercher un pays ?»«
Des idées d'enfants, » dit l'autre.
« On croit toujours que les enfants n'ont pas d'idées, » concluait le premier.
Gaspard n'apprit rien d'autre. Il tenta vainement d'entrer en conversation avec Fernande et avec le commis. Ils avaient le mot et lui répondirent à peine. D'ailleurs, Gaspard ne savait pas poser des questions. Quand il monta l'escalier pour gagner sa chambre, Gabrielle se dressa devant lui, sur le palier du deuxième étage.
« Ce soir, tu couches dans la salle de bain. Fernande t'a dressé un lit.
Pourquoi » « Pourquoi ?»
Jamais, sans doute, il n'avait encore prononcé ce mot.
« J'ai dit !»
trancha la tante. Gaspard gagna la salle de bain, se déshabilla et se glissa entre les draps après avoir éteint l'électricité. Mais il ne put pas s'endormir. Après s'être retourné 20 fois sur le lit de Caen, il se leva, enfila son pantalon et rouvrit doucement la porte. Gaspard n'avait d'autre raison de vivre, comme nous le savons, que d'écouter de loin ce qui se passait alentour dans le monde. L'hôtel était plongé dans l'obscurité. D'abord, Gaspard n'entendit que le vent léger qui soufflait dans les arbres et faisait grincer la girouette du pigeonnier. Puis un murmure de voix lui parvint. Il s'avança vers l'escalier et il reconnut que les voix venaient du rez-de-chaussée. Il descendit les marches une à une. Quand il fut arrivé à la pomme de la rampe, il aperçut une lumière filtrant par la porte entrouverte de la cuisine. C'était Fernande qui bavardait avec le cuisinier.
« Moi, je les ai vus arriver, » disait le cuisinier. « Il menait cet enfant comme si ça avait été un malfaiteur. »
« Mais alors, » répondit la servante, « vous avez pu constater qu'il portait de beaux habits et qu'il appartient à une bonne famille. Je vous le répète pour la 10e fois, le père a exigé qu'on l'enferme à double tour et qu'on monte la garde pour qu'il ne s'échappe pas. Monsieur Bérec, le maire, a téléphoné, vous pensez bien, et le père lui a répondu cela.
Ah, ça serait un beau résultat s'il ne trouvait pas son enfant demain matin, quand il viendra entre 6 et 7 heures, comme il l'a dit,
Madame Berlicombe l'a bien seriné. Si jamais vous entendez un bruit dans la maison, courez et faites-moi d'abord le plaisir de veiller jusqu'à minuit. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a tout expliqué.
Une marche craqua sous les pieds de Gaspard. Le cuisinier reprit.
D'habitude, on ne se conduit pas ainsi avec les enfants. On les cajole et on leur fait entendre raison.
Ah, vous irez faire entendre raison à celui-là, gémit la servante. Quand on a voulu qu'il entre au 25, il a bousculé Mademoiselle Berlicot. Il a cherché encore à se sauver et il a fallu la poigne du garde pour le fourrer dans la chambre.
Vous ne pourrez pas croire que ce gamin n'a pas une raison sérieuse d'être si acharné.
Aucune raison, monsieur.
Il cherche son pays, à ce que disent les gens.
Son pays ? Quel pays ?
Ah, voilà ce qu'il faudrait savoir, Mademoiselle Fernande. S'il cherche son pays, c'est que là où il était, il n'est pas chez lui. Et de toute façon, c'est une histoire bizarre.
Monsieur Aurélien, répliqua la servante, lorsqu'on cherche un pays, on le trouve. Et on sait dire au moins de quel pays il s'agit. Moi, je suis natif de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.
Si vous aviez quitté votre pays à l'âge de 5 ans, par exemple, est-ce que vous le connaîtriez, votre pays ?
Si je ne le connaissais pas, alors ça serait tout comme si j'en avais pas, dit la servante.
Cela pourra paraître extraordinaire, mais Gaspard entendit le cuisinier se gratter la tête, tellement le silence fut profond et tellement l'homme y mit une solennelle vigueur.
Ça serait comme s'il cherchait le paradis, conclut-il enfin tout à fait dépité.
Bonsoir, dit brusquement Fernande. Je vais faire ma ronde.
Gaspard grimpa précipitamment l'escalier et alla s'enfermer dans sa salle de bain. La servante ne montait pas cependant au premier étage. Elle se rendit dans la cour. Peut-être regarda-t-elle si une lumière brillait au vassis d'as de la chambre numéro 25 là-haut sur le toit. Gaspard aurait voulu apercevoir rien que cette lumière, mais il ne pouvait pas aller dans la cour. Fernande habitait le pavillon qui s'élevait auprès du pigeonnier. Il se recoucha. Il voyait les yeux bleus qu'il avait regardés avec un air de subtile intelligence et il lui semblait que ses yeux ne cesseraient pas de le regarder pendant des jours et même des années. Que lui voulait ce regard qui l'emplissait d'un élan d'amour ? Gaspard se leva de nouveau après avoir attendu deux longues heures sans parvenir à trouver le sommeil. Il sortit dans le couloir et cette fois, il monta l'escalier. À peine sa tête fut-elle arrivée au niveau du palier supérieur qu'une voix cria « Qui va là ?» C'était la voix de Gabrielle Berlicot. Elle avait dû pousser son lit en travers du couloir. Ainsi, elle défendait l'accès du petit escalier qui menait au dernier étage, occupé par le grenier et les deux mansardes. Gaspard s'avança. Il reçut en pleine figure la lumière d'une lampe électrique.
« Qu'est-ce que tu viens faire ici, Gaspard ?»«
J'allais chercher ma savonnette dans ma chambre pour demain matin. »«
Redescends d'où tu viens, » souffla la tante. « Tu vas mettre toute la maison sur pied. »«
J'en ai pour 2 minutes, » insista Gaspard.
« Descends, imbécile !»
Gaspard ne pouvait pas enjamber le lit de la tante sans causer un scandale. Il regagna la salle de bain avec la certitude qu'il n'y avait vraiment rien à tenter pour communiquer avec le jeune prisonnier. Il renonça cependant à se coucher et s'assit sur son lit de camp, les coudes sur ses genoux, la tête entre les mains. Il éprouvait la nécessité de veiller, quoiqu'il fût sûr qu'aucun événement ne se produirait. Gaspard épiait en vain les moindres bruits dans l'hôtel. Il ne pouvait surprendre aucun signe de la présence de l'enfant. C'était comme s'il avait essayé de percevoir le bruit de la mer ou une chanson à l'autre bout du monde. L'étage qui le séparait de l'enfant était aussi infranchissable que 10 000 kilomètres et rien ne pouvait sortir des plafonds ni des murs. Au bout d'une heure, peut-être, par une contradiction de la nature, ainsi qu'il arrive lorsqu'on décide de ne pas dormir, le sommeil gagna Gaspard.
sa tête à la cogner contre le gros tuyau du chauffage qui descendait le long du mur. Il se redressa, mais toutes les 10 secondes, sa tête heurtait brusquement le tuyau et il pensa qu'il n'y avait pas d'autre solution pour rester éveillé que de se tenir debout. Comme Gaspard se redressait en s'appuyant au tuyau du chauffage, il sentit sous sa main un frémissement qui courait le long du tuyau. Il colla son oreille au tuyau et perçut des coups frappés avec régularité. Si c'était lui, songea Gaspard. Quand les coups s'arrêtèrent, il frappa à son tour avec une clé qu'il tira de sa poche. Et au bout d'un moment, il reçut la réponse. Il n'y avait rien à comprendre dans une réponse de ce genre, mais c'était une réponse. Gaspard exécuta avec sa clé un petit roulement sur le tuyau, et peu de temps après, il perçut un roulement analogue. Il sut ensuite ce qu'il devait faire. Il descendit de nouveau au rez-de-chaussée. Le cuisinier était allé se coucher comme la servante. Il n'y avait plus de risque de ce côté. Gaspard alla fouiller dans le bas d'un placard, et bientôt, il remontait avec une grosse clé à molette. La tuyauterie descendait tout droit de la chambre 25 où était installé le réservoir d'eau. Par chance, dans la salle de bain, un écrou joignait deux tuyaux qu'on avait ainsi ajustés pour des raisons techniques difficiles à expliquer. Gaspard ne mit pas plus de 5 minutes à desserrer l'écrou et à libérer le tuyau supérieur, après quoi il réussit par une pesée à l'éloigner du mur, juste assez pour pouvoir coller tour à tour son oreille et sa bouche à l'orifice. « Tu m'entends ?» murmura-t-il dans le tuyau. Gaspard dut répéter plusieurs fois son appel. Il n'osait pas parler haut. Gabriel Berlicot, qui s'était installé dans ce couloir, ne risquait pas de surprendre quoi que ce fût, mais Gaspard avait tellement peur que cette chance lui échappât de communiquer avec l'enfant qu'il parlait comme dans un souffle. Enfin, il parvint à mesurer sa voix et collant son oreille au tuyau, il capta enfin la réponse. « Je t'entends. » Ces mots chuchotés le troublèrent tellement qu'il resta quelques minutes sans rien faire d'autre qu'écouter. L'autre répéta plusieurs fois « Je t'entends » à de légers intervalles. En vérité, le timbre de cette voix étouffée avait une douceur profonde et ne rappelait nullement la vivacité presque brutale que l'enfant avait manifestée. Sans doute était-il maintenant calme et résigné. « D'où viens-tu ? » demanda Gaspard. « Qui es-tu ? » répartit la voix. « Je t'ai vu sur la place de l'église quand on t'a arrêté. D'où viens-tu ? » « Je viens d'Anvers. » Gaspard se tut. Il ne désirait rien apprendre en réalité et ne voulait pas se montrer curieux. Après un long temps, il reprit. « Pourquoi est-ce que tu ne dors pas ? Il est 3 heures du matin. »«
Je ne peux pas dormir. Et toi ?»«
Je pensais à toi. » Encore un long silence. « Pourquoi t'es-tu sauvé ?
Je cherche mon pays. »
« Quel pays ?»«
Je ne sais pas, je cherche. »«
Explique-moi. »«
Ce serait trop long. »«
Tu veux toujours te sauver ?»«
Je voudrais bien. »«
Je vais t'aider. Ne t'endors pas cette nuit. » Gaspard ne savait pas comment il pourrait aider l'enfant, mais il en éprouvait un tel désir qu'il eut soudain l'assurance de réaliser l'impossible. « Comment t'appelles-tu ? » reprit Gaspard.
« Je m'appelle Drapeur, D-R-A-P-E-U-R. »
Après chaque réponse, Gaspard gardait longtemps son oreille collée au tuyau et il ne changeait de position pour parler à son tour que lorsqu'il était sûr que son interlocuteur était décidé à se taire. Une seule fois, l'enfant fugitif reprit le premier la conversation.
« Toi, tu es le fils de l'hôtelière ?»
Gaspard répondit qu'il était son neveu et expliqua de quelle manière ses parents vivaient et que lui-même faisait le gros travail dans l'hôtel.
mais le jeune prisonnier ne consentit pas pour sa part à se livrer aux confidences. Une grande heure passa, tantôt occupée par de longs silences, tantôt par des échanges de brèves questions et réponses qui n'apprirent que peu de choses à Gaspard. Il crut deviner tout seulement que M. Drapeur pouvait ne pas être le père de cet enfant, mais son tuteur. Ce qui semblait intéresser le fugitif, c'était d'arriver à un pays qu'il prétendait avoir connu dans sa première enfance et qui, d'après lui, serait plus beau que n'importe quel pays au monde. Mais il parlait comme à regret et il se refusait à donner un renseignement précis. « Tu m'avais promis de m'aider ?» reprit enfin l'enfant. « Je vais t'aider, » dit Gaspard. Il était résolu à agir de quelque façon que ce fût. Sans même avoir conçu le moindre projet ni réfléchi à la difficulté de toute tentative, Gaspard se dirigea vers la porte. Il ouvrit avec précaution, murmura « Seigneur !» et comme un automate gagna l'escalier. Peut-être était-il poussé à ce moment-là par l'idée de profiter du sommeil de la tante pour rejoindre l'enfant. Il mit la main sur la rampe et murmura encore « Seigneur !» Mais au lieu de monter, il descendit l'escalier. Il serrait dans sa main une clé qui ouvrait sa chambre aussi bien que le numéro 25, et soudain, il avait compris ce qu'il fallait faire pour que la clé parvînt jusqu'à son ami. Il se rendit dans la cuisine où étaient de linge, nappes ou draps qu'on voulait enrouler. Il les enroula, puis il regagna la salle de bain. Alors commença un travail qui dura plus d'une heure. Le fil montait très facilement dans le tuyau, mais il y avait deux légers coudes. L'enfant prisonnier, après que Gaspard lui eut expliqué ce qu'il tentait, déclara qu'il avait une ficelle, mais cette ficelle n'était pas assez longue et Gaspard continua à manœuvrer son fil de fer. Enfin, il parvint à lui donner une courbure convenable et en le faisant pivoter, il réussit à le passer complètement. Lorsqu'un autre fil de fer fut attaché au premier, Gaspard procéda à des torsions pour que tout l'appareil gardât sa rigidité. Enfin, vers 5 heures, comme l'aube venait au fond de la fenêtre, Gaspard sentit que l'autre avait saisi l'extrémité du fil de fer. Il ne lui restait qu'à attacher sa clé. Peu de temps après, le prisonnier annonça qu'il la tenait, puis il renvoya les fils de fer. Quand tout fut fini, Gaspard lui dit « Attends encore un peu, ma tante est dans le couloir du deuxième. » Alors comment faire ? Comment faire, Seigneur ? Se demandait Gaspard. Tout ce travail était sans doute inutile. Enfin, il débita ce discours à l'enfant fugitif. Peut-être que je ne te reverrai plus. En tout cas, écoute-moi bien. Je vais revisser l'écrou du tuyau et puis je frapperai sur le tuyau. Alors tu compteras lentement jusqu'à 1000. Lentement, tu as bien compris. Ne t'occupe de rien d'autre. À 1000, tu sors de ta chambre et tu descends jusqu'au premier étage. Là, tu ouvres la fenêtre, tu sautes dans la cour et après, tu verras bien. Je te promets qu'il n'y aura personne, ni dans les étages, ni dans la cour. Mais ta tante, personne, dit Gaspard. Répète ce que je t'ai dit. L'autre répéta. Adieu, dit Gaspard. Adieu, Gaspard, répondit l'enfant.
Fin de la deuxième face de la première cassette, page 32, André d'Autel, Le pays où l'on n'arrive jamais.